J'ai à cœur de lire plusieurs, on lira plusieurs passages, plusieurs expressions de la parole dans l'Ancien Testament, d'abord dans le Nouveau Testament, avec le fait d'écouter la parole et les choses qui sont meilleures que les sacrifices. Le peuple d'Israël avait reçu des instructions dans le livre du Lévitique pour offrir des sacrifices à Dieu. On les connaît, n'est-ce pas ? Différents sacrifices, holocauste, sacrifice pour le péché, sacrifice pour le déni, sacrifice de prospérité, offrande de gâteaux. Et ces sacrifices devaient être accomplis avec certaines manières, avec des cœurs touchés, des cœurs engagés pour l'Éternel. Le peuple n'a souvent pas accompli cela de la manière que Dieu voulait que ce soit. Il est intéressant de voir dans plusieurs passages dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, qu'est-ce que Dieu pense des sacrifices qui lui sont offerts et qu'est-ce que pour lui le bon sacrifice pour nous, pour notre vie. Nous ne ferons plus de sacrifices comme autrefois, mais nous pouvons offrir des sacrifices qui plaisent à Dieu. Le premier passage sort d'un 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, on va lire un verset, même deux. 1 Samuel 15, 22. Et Samuel dit, l'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices, comme à ce que l'on écoute la voix de l'Éternel? Voici, écoutez. En note, il est dit, obéir est meilleur que sacrifice. Prêtez l'oreille meilleure que la graisse des béliers. Car la rébellion est comme le péché de divination et l'obstination comme une idolâtrie des téraphins. Et alors il s'adressait donc à Saül, parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, il t'a aussi rejeté comme roi. Au début du chapitre 15, l'Éternel envoie Samuel pour oindre Saül comme roi sur mon peuple Israël. On sait qu'Israël avait demandé un roi. Dieu lui a donné. Mais il lui dit au premier verset de ce chapitre 15, écoute la voix des paroles de l'Éternel. Et puis au verset 11, Dieu dit à Samuel, je me repens d'avoir établi Saül pour roi car il s'est détourné de moi et n'a point exécuter mes paroles. Samuel est attristé. Et puis voilà, verset 19, pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel ? L'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices comme à ce que l'on écoute la voix de l'Éternel ? Ce qui est important, et pour nous, pour notre vie, c'est d'écouter ce que Dieu dit. Beaucoup plus que des activités, au-delà des sacrifices. Même, il voulait faire des sacrifices, Saül. Mais il n'a pas écouté la parole de l'Éternel. Et c'est solennel aussi pour chacun de nous. Est-ce que nous avons à cœur vraiment, chaque jour de notre vie, d'écouter la voix de l'Éternel, d'écouter la voix de Dieu, d'écouter la voix du Seigneur Jésus? Le Seigneur Jésus dit, on l'a chanté dans le cantique, « Mes brebis, écoute ma voix. » C'est propre à la brebis, à celle du Seigneur. Mes brebis, écoute ma voix. n'écoute pas la voix des étrangers. Écoutez la parole, gardez la parole, on voit le Seigneur en parle très souvent dans les évangiles. Et peut-être quelque chose qui nous manque, cela. Écoutez la voix de Dieu. Je crois que c'est dans le Deutéronome, on peut lire ce verset, Deutéronome 33, au verset 3, au milieu, « Tous ces saints sont dans ta main, et ils se tiennent à tes pieds, et ils reçoivent tes paroles. » Se tenir aux pieds du Seigneur Jésus. Écoutez sa parole. Marie avait choisi cette bonne part. Marthe était distraite par beaucoup de services. Le Seigneur était entré dans cette maison où il aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Mais il y avait une âme qui était assise à ses pieds pour écouter. Et autant, au moment favorable, elle a offert ce parfum. Elle avait écouté la voix du Seigneur. Elle avait appris de lui. Et elle a rempli ce service si précieux. On relit l'Éternel, prend-il plaisir aux holocaustes, comme à ce qu'on écoute la voix d'Éternel. Écouter est meilleur que sacrifice. Prêter l'oreille, meilleur que la graisse des béliers. Que nous puissions avoir cette attitude de cœur. Écouter, prêter l'oreille. C'est ce qui plaît à Dieu. C'est quelque chose que Dieu apprécie. Il prend plus plaisir à cela qu'à toutes sortes de sacrifices. On retrouve cette expression dans le psaume 40. Nous connaissons ce psaume, bien sûr, que l'on retrouve dans l'épître aux Hébreux au chapitre 10. Mais là, on peut lire dans le psaume 40, au verset 6. On a encore cette même expression. Au sacrifice et à l'offrande de gâteau, tu n'as pas pris plaisir. Pourtant, c'était Dieu qui avait institué cela. Mais la manière dont le peuple le faisait, c'était pas pour le plaisir de Dieu, dans le fond. Tu m'as creusé des oreilles. Tu n'as pas demandé d'holocauste ni de sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Il est écrit de moi dans le rouleau du livre. C'est mes délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir. Et ta loi est au-dedans de mes entrailles. Nous savons qui c'est qui parle, n'est-ce pas ? Psaume prophétique, au Seigneur Jésus lui-même. Et on peut voir la petite différence qui est dans Hébreux 10, on peut quand même le lire parce que c'est significatif. Hébreux au chapitre 10. On voit au début que les sacrifices qui sont offerts ne peuvent pas rendre parfait ce qui s'approche. Verset 4, il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte les péchés. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, Il dit, Seigneur Jésus, tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Dans le psaume 40, tu m'as creusé des oreilles. La différence est significative aussi. Le psaume 40, c'est tu m'as creusé des oreilles, l'important c'est ce que j'entends. Et puis, tu n'as pas pris plaisir aux holocaustes, alors j'ai dit, voici, je viens, il est écrit de moi dans le rouleau du livre. Et c'est la même expression. Verset 9, voici, je viens pour faire ta volonté. Verset 10, au milieu, c'est par cette volonté que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ faite une fois pour toutes. Les sacrifices ne peuvent jamais ôter les péchés, mais le sacrifice, l'offrande du corps de Jésus, lui, oui. Et alors, dans ce psaume 40, il rappelle cela en s'adressant à Dieu, son Père, au sacrifice, à l'offrande de gâteau. Non, tu n'as pas pris plaisir, mais tu m'as creusé des oreilles, tu m'as formé un corps. Voici, je viens. Il est venu. Il est écrit de moi dans le rouleau du livre. Dans ce livre des conseils de Dieu, il est écrit de moi. Et alors, c'est mes délices de faire ce qui est ton plaisir. Ta loi est au-dedans de mes entrailles. C'est-à-dire, la loi de son Dieu était en lui, elle habitait en lui, et il accomplissait. Le plaisir, c'était de faire la volonté de Dieu. C'était d'obéir à la parole. Tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait, c'était par obéissance au commandement de son Dieu, de son Père. Voilà le chemin qu'il a suivi et qu'il trace aussi pour nous, d'obéissance entière en la parole. Ta loi est au-dedans de mes entrailles. Est-ce que là, c'est cette parole qui habite nos cœurs? Il dit que sa parole habite en nous richement, n'est-ce pas? C'est dans Colossiens, je crois, on peut citer cette expression, Colossiens 3, je crois. Colossiens 3, verset 16, « Que la parole du Christ habite en vous richement. » Cette parole qui est la nourriture et la joie de l'âme du chrétien. Cette parole habitée dans le Seigneur Jésus. Elle était en lui et il accomplissait. Il n'a rien laissé de côté dans tout ce que Dieu avait dit. Au sacrifice, à l'offrande, tu n'as pas pris plaisir. Mais tu m'as formé un corps, tu m'as creusé des oreilles. Quelle chose extraordinaire que le Saint-Fils de Dieu, que le Dieu créateur des cieux et de la terre a voulu venir sur cette terre pour faire la volonté de Dieu, pour l'accomplir entièrement. Et là où l'homme avait désobéi, lui a toujours fait la volonté de Dieu, toujours obéi à Dieu, son Père, sans rien laisser de côté. Psaume 51, nous connaissons cette condition dans laquelle ce psaume a été écrit, psaume de David, après qu'il ait commis ce péché, cette faute. Et c'est beau de voir lire le verset 2, « Lave-moi pleinement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. » Ce que le Seigneur veut faire pour chacun de nous quand nous sommes égarés, écartés, revenir à lui. Et puis alors il dit au verset 16, car tu ne prends pas plaisir au sacrifice. Autrement, j'en donnerais. L'Holocauste ne t'est point agréable. Vous voyez, Samuel l'a dit à Saül. Le Seigneur Jésus l'a dit à Dieu son Père. Ici, David va le redire à nouveau. Et il ajoute au verset 17, « Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne mépriseras pas un cœur brisé et humilié. » Voilà ce qui plaît à Dieu. Ce que Dieu ne méprise pas. Un esprit brisé, un cœur brisé et humilié. C'est l'état du cœur de David après sa chute et le pardon qu'il a obtenu. Oui, on le voit, on lit dans le livre de Samuel, n'est-ce pas? Il a été brisé, oui. Tu ne mépriseras pas un cœur brisé et humilié. Voilà le vrai sacrifice de Dieu, ce que Dieu apprécie. Est-ce que c'est notre attitude de cœur? Un cœur brisé et humilié devant Dieu. Il y a, par rapport à cela, une vraie bénédiction. Et c'est comme un sacrifice qui monte vers Dieu. Les sacrifices de Dieu, c'est cela, n'est-ce pas? Un esprit brisé, pas un esprit hautain, pas quelqu'un qui dit oui, je fais ceci, je fais cela, j'ai telle activité, même j'offre un culte où je remplis des services, et c'est tout à fait à sa place de remplir des services. Il n'est pas cela pour négliger cela, mais c'est d'abord, il y a des priorités, n'est-ce pas? Quel état d'esprit, quel cœur avons-nous par rapport à ce que Dieu nous dit? Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé. Un autre verset dans le livre des Proverbes. Proverbe 21. Proverbe 21, verset 3. Pratiquez ce qui est juste et droit est une chose plus agréable à l'Éternel qu'un sacrifice. Voilà encore comment Dieu soupèse les choses, n'est-ce pas? D'un côté, un sacrifice, et de l'autre côté, pratiquer ce qui est juste et droit. Cela est plus agréable à l'Éternel. Alors voilà un programme, c'est pas pour nous. C'est pratiquer ce qui plaît à Dieu. Et là, c'est la justice, la droiture. En note, il est dit justice et jugement. Vivre cela, pratiquer cela comme jeune Samuel le faisait, comme bien des serviteurs de Dieu l'ont fait. comme Daniel, n'est-ce pas, par exemple, qui ne s'est pas souillé avec les mets délicats du roi, mais qui faisait ce qui était juste, qui s'appliquait à cela dans sa vie, en étant séparé du monde. Pratiquer ce qui est juste et droit, plus agréable à Dieu qu'un sacrifice. On passera maintenant dans le livre d'Osée. Il y aurait bien d'autres passages où il est parlé des sacrifices que Dieu ne reconnaît pas plus que cela. Par exemple, dans le livre d'Ésaïe, à plusieurs reprises, je crois que c'est au tout début du livre d'Ésaïe, où il dit quelque chose de semblable. Oui, en Ésaïe 1, au verset 11, « À quoi me sert la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel ? Je suis rassasié d'holocauste de bélier, de la graisse des bêtes grasses, et je ne prends pas plaisir au sang des taureaux et des agneaux et des boucs. Quand vous venez pour paraître devant ma face, qui a demandé cela de vos mains, que vous fouillez mes parvis ? Ne continuez pas d'apporter de vaines offrandes, etc. » Et à la fin du verset 16, « Cessez de mal faire, apprenez à bien faire. » On retrouve ce qu'il dit en Proverbe, n'est-ce pas ?« Recherchez le juste jugement, rendez heureux l'opprimé, faites droit à l'orphelin, plaidez la cause de la veuve. » Voilà tout un programme aussi, n'est-ce pas ? Et cela, ça plaît à Dieu. Est-ce que nous avons à cœur de visiter les veuves et les orphelins dans leur affliction ? C'est utile, n'est-ce pas, cela ? On est frappé de voir dans l'Écriture comment le Seigneur prend la défense des veuves et des orphelins. Et comment il juge ceux qui ne s'en occupent pas de la bonne manière. Là, ils apportaient des sacrifices, mais ils oubliaient l'essentiel. Passons à Osée 6. Osée 6. Au verset 4 d'abord, au milieu, « Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui s'en va de bonne heure. » Verset 6, « J'ai aimé la bonté et non le sacrifice. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » J'ai aimé la bonté. C'est Dieu qui dit cela, la grâce. C'était ce qu'il avait dans son cœur, n'est-ce pas ? Il compare au sacrifice et aux holocaustes. La bonté de Dieu, la connaissance de Dieu, connaître Dieu, connaître ce qu'il est. C'est ce qu'il nous demande, une piété, pas une piété qui est comme la rosée du matin, mais une piété qui demeure. Piété, c'est la vie avec le Seigneur, la communion avec le Seigneur, c'est cela, n'est-ce pas ? Que nous puissions rechercher ces choses-là, ce qui plaît à Dieu, la bonté, la connaissance de Dieu. Parce que la bande des sacrificateurs, au verset 9, ils peuvent assassiner des gens, mais ils peuvent continuer à accomplir des sacrifices, n'est-ce pas ? Dans le livre de Michée, on a aussi une expression, juste après, Michée 6. Au verset 6. Avec quoi m'approcherai-je de l'Éternel? M'inclinerai-je devant le Dieu d'en haut? M'approcherai-je de lui avec des holocaustes? Avec des veaux âgés d'un an? L'Éternel prendra-t-il plaisir à des milliers de béliers, à des myriades de torrents d'huile? Et alors le verset 8, c'est ce que Dieu demande. Il t'a déclaré, ô homme, ce qui est bon. Qu'est-ce que l'Éternel recherche de ta part, sinon que tu fasses ce qui est droit? C'est ce qu'on avait en Proverbe 21. Que tu aimes la bonté, c'est ce qu'on a lu en Osée 6. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Dieu recherche cela de notre part, dans notre vie. Est-ce que c'est cela qui est devant nous, bien-aimés? Je dis cela pour moi d'abord, ce n'est pas donner la leçon à personne, n'est-ce pas? Qu'est-ce que l'Éternel recherche de ta part, sinon que tu fasses ce qui est droit, que tu aimes la bonté, que tu marches humblement avec ton Dieu? Voilà tout un programme pour nous, pour notre vie de tous les jours. La droiture, la bonté, l'humilité. Le Seigneur a manifesté tout cela, n'est-ce pas, d'une manière incomparable, à chaque pas de son chemin, dans toutes les paroles qui sortaient de sa bouche, dans tout ce qu'il a fait, dans tout ce qu'il a dit, tout était à cette mesure-là. L'humilité est caractérisée, la compassion, la tendresse et la droiture de cœur. Et il nous invite, c'est ce que Dieu désire pour nous, pour notre vie, pour notre vie chrétienne, manifester quelques-uns de ces caractères-là. Et puis le Seigneur Jésus lui-même en parle dans les évangiles, au moins à deux reprises, peut-être trois même. D'abord dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9. Matthieu, chapitre 9. On peut lire le paragraphe parce que ça éclaire bien des choses. Matthieu 9, verset 9. Et Jésus, passant de là plus avant, vit un homme nommé Matthieu, assis au bureau de recette, et lui dit « Suis-moi ». Il dit à quelqu'un peut-être ici ce soir « Suis-moi ». Alors on fait quoi? Et se levant, il le suivit. Il quitte tout, il était percepteur des impôts, il quitte tout pour suivre Jésus. Rien ne l'arrête. Et alors, il était à table dans la maison. On sait que Lévi l'avait invité, on le voit dans un autre évangile. Et il avait invité des publicains, des pécheurs. Jésus est avec eux à table, avec ses disciples. Alors, les pharisiens, ceux qui aimaient les longues robes, les belles tables et les sacrifices. Le Seigneur va leur parler. D'abord, eux-mêmes disent « Pourquoi votre maître mange-t-il avec des publicains et des pécheurs ?» Et alors, la réponse du Seigneur, Jésus, l'ayant entendu, leur dit « Ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, mais ceux qui se portent mal, allez et apprenez ce que c'est que je veux miséricorde et non pas sacrifice. » C'est le passage qu'on a lu dans Osée, le Seigneur le cite. Osée 6, verset 6, on l'a lu tout à l'heure. Je veux miséricorde et non pas sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Il a interpellé les pharisiens, là, d'une manière forte. Il avait pris un, quelqu'un dont on se moquait, parce que les percepteurs, ils étaient mal aimés à l'époque, surtout des pharisiens, n'est-ce pas? Mais Matthieu, il a obéi, il a suivi le Seigneur. Le Seigneur lui avait dit « Suis-moi », il a fait. Et puis il a invité toutes sortes de gens. Le Seigneur, il aurait pu dire « Mais je ne veux pas aller là, à ce festin-là, avec tous ces gens bizarres, pécheurs, publicains, les pécheurs. » D'ailleurs, il est repris par les sacrificateurs du moment. Pourquoi mange-t-il avec ces gens-là? Le Seigneur est venu pour eux. Ceux qui sont en mauvaise santé, ceux qui sont pécheurs, qui se sentent pécheurs. Le Seigneur est venu pour eux, n'est-ce pas? Je veux miséricorde et non pas sacrifice. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Je me souviens, j'étais à Paris encore jeune étudiant, et un frère âgé, sorti d'une réunion de jeunes, on l'avait accompagné, on avait pris le métro, et puis en passant, il y avait deux pauvres mendiants sur le bord, qui avaient une bouteille de vin à la main, et qui buvaient, et ce frère âgé, vous avez marqué, on était plusieurs jeunes, nous a dit, vous savez, voyez ces deux personnes-là, ne les méprisez jamais. Ce sont des âmes, peut-être, pour leur apporter l'Évangile. Chers jeunes, ne méprisez jamais ces personnes-là. Elles ne sont pas en bonne santé, mais elles ont peut-être besoin de miséricorde et de bonté. Ça m'a marqué souvent dans ma vie après. Quel regard portons-nous sur les misérables et miséreux de la vie que nous rencontrons? Est-ce que ce regard du Seigneur Jésus, qui veut miséricorde et non pas sacrifice, lui qui est venu appeler des pécheurs à la repentance? Évangile selon Marc, chapitre 12. Là aussi, le Seigneur est interpellé par les scribes. Au chapitre 12, au verset 28, l'un des scribes s'approche et demande à Jésus « Quel est le premier de tous les commandements ?» Et le Seigneur dit « Le premier, c'est « Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est un seul Seigneur, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force, c'est là le premier commandement. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a point d'autre commandement plus grand que ceci. » Le scribe lui dit, bien maître, tu as dit selon la vérité, etc. Et il dit à la fin du verset 33, aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. C'est frappant, n'est-ce pas, cet échange entre le Seigneur et les scribes. Les deux commandements essentiels, d'abord, le Seigneur rappelle, c'est l'amour de Dieu. L'amour du prochain. D'ailleurs, l'amour du prochain, on le voit au moins à 7 reprises dans le Nouveau Testament mentionné. Ce verset qui est un verset du livre du Lévitique. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceci. Et alors, ce scribe qui a répondu intelligemment, il dit, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. Belle réponse, n'est-ce pas ? Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. C'est cela, le royaume de Dieu. L'amour pour Dieu, l'amour pour notre prochain. Qu'il soit dans nos cœurs, n'est-ce pas ? Et le Seigneur en parle dans les évangiles, notamment entre quand il est la nuit où fut livré, qui réunit ses disciples autour de lui, dans ses chapitres 13 à 17 de l'évangile de Jean. À combien de reprises il va leur parler de cet amour de Dieu. Cet amour de Dieu qui maintenant est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, que nous pouvons manifester et porter envers nos semblables, envers, pas seulement envers ceux que nous aimons, mais envers tous, comme le Seigneur Jésus l'a apporté, envers les malheureux de cette terre qui ont besoin de l'amour de Dieu. Alors, qu'est-ce qui plaît à Dieu ? On l'a vu, il y a plusieurs choses, mais l'apôtre Paul va en parler aussi dans, on peut lire dans l'épître aux Romains. Romains 12. Romains 12, premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Et ensuite, il y a la mesure de foi que Dieu a donnée, les dons de grâce différents que nous pouvons utiliser les uns pour les autres. Et puis tout ce chapitre 12, 13, 14, où on voit l'amour de Dieu en activité dans le corps de Christ. Mais là, l'apôtre exhorte les croyants et chacun de nous à présenter nos corps à Dieu en sacrifice vivant, agréable à Dieu. Et il dit qui est votre service intelligent. Voilà aussi un programme, n'est-ce pas ? Offrir nos corps, on chante parfois nos corps, nos biens, nos cœurs, mais là nos corps c'est l'ensemble de notre être, notre vie tout entière. Le mettre sur, on le dit parfois, sur l'autel, c'est-à-dire à la disposition du Seigneur, pour qu'il puisse nous utiliser. Et l'apôtre le dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu. Il veut toucher nos cœurs, n'est-ce pas ? À présenter, à mettre nos corps, nos biens, nos cœurs, tout ce que nous avons, au service de Dieu, au service du Seigneur. Service intelligent. Qui plaît à Dieu, agréable à Dieu. Et voilà quelque chose qui est un sacrifice agréable à Dieu pour notre vie. En Philippiens 4, il y a aussi quelque chose qui est agréable à Dieu, mais qui est reconnu comme un sacrifice. C'est en Philippiens 4, je crois. Oui, Philippiens 4 au verset, c'est à propos, dernier paragraphe, hein, l'avant-dernier paragraphe, à propos des dons. L'apôtre Paul vivait aussi des dons, des croyants qui lui adressaient des dons pour le service qu'il accomplissait. Et à certains moments, quand il a quitté la Macédoine, personne ne lui donnait rien, excepté vous seul, à Philippe, oui. À Philippe, lui ont donné quelque chose. Et il le remarque. Et il dit, deux fois même, vous m'avez fait un envoi pour mes besoins. Donc je recherche un don, verset 17, mais je recherche du fruit qui abonde pour votre compte. Pourtant, il avait amplement de tout. Il était dans l'abondance. Il dit ailleurs, au verset 12, je sais être abaissé, je sais être dans l'abondance, je suis enseigné à être rassasié, à avoir faim, être dans l'abondance, être dans les privations. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Je suis comblé, ayant reçu d'Épaphrodite, ce qui m'a été envoyé de votre part, un parfum de bonne odeur, un sacrifice acceptable, agréable à Dieu. Et alors, il en résulte une louange à Dieu soit la gloire au siècle des siècles. Dieu suppléera à tous vos besoins. Ayons à cœur aussi d'encourager ceux qui ont service pour le Seigneur. Et c'est quelque chose qui est un parfum de bonne odeur, un sacrifice acceptable, agréable à Dieu. On n'y pense pas toujours à cela. Et pourtant, l'apôtre Paul en a fait l'heureuse expérience recevant d'Épaphrodite. Quelque chose que les Philippiens avaient fait de tout cœur pour le Seigneur, pour l'encouragement des serviteurs. Je crois qu'on a aussi en Hébreux 13, me semble, c'est repris en Hébreux 13, on peut le lire. Hébreux 13. Alors, il y a deux choses dans Hébreux 13, au verset 15. 15 et 16. Offrons donc par lui, par Christ, sans cesse à Dieu, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Voilà, c'est un sacrifice de louange qui est acceptable à Dieu. Le fruit des lèvres qui confesse son nom. C'est cela que nous avons apporté, n'est-ce pas, chaque premier jour de la semaine, mais chaque jour de notre vie. Un sacrifice de louange. La louange à Dieu, la louange en commun, dans l'assemblée. C'est quelque chose qui plaît à Dieu, que nous avons à offrir. Mais le verset 16 aussi, qui rejoint notre verset de Philippiens 4, n'oubliez pas la bienfaisance et de faire part de vos biens, car Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. Le dernier chapitre de la première épître aux Corinthiens nous en parle, de préparer quelque chose chacun chez soi pour la collecte qui se fait parmi les saints. Je crois que c'est la fin de Corinthiens 16, où il nous en est parlé. On peut juste citer le verset. Corinthiens 16, ce qui est de la collecte qui se fait pour les saints, que chaque premier jour de la semaine, chacun mette à part chez lui, accumulant selon qu'il aura prospéré, etc. Et on voit que donc, c'est quelque chose qui se faisait quand, là c'était pour la bienfaisance, c'était pour porter la libéralité à Jérusalem pour ceux qui étaient dans la détresse, dans le besoin. C'est cela la bienfaisance. N'oubliez pas la bienfaisance et de faire part de vos biens, car Dieu prend plaisir. On retrouve cela, n'est-ce pas ? À de tels sacrifices, il met cela comme étant des sacrifices qui plaisent à Dieu, qui sont agréables à Dieu. Puis je terminerai par la première épître de Pierre, au chapitre 2. Pierre 2, je lirai depuis le premier verset, rejetant toute malice et toute fraude, l'hypocrisie et l'envie et toute médisance. Les choses qui sont à rejeter. Désirez ardemment, comme des enfants nouveau-nés, le pur lait intellectuel, afin que vous croissiez par lui à salut, si toutefois vous avez goûté que le Seigneur est bon, duquel vous approchant. Comme d'une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse auprès de Dieu, vous-même aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés une maison spirituelle, une sainte sacrificature pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Voilà quelque chose aussi qui est agréable à Dieu. Les sacrifices spirituels qui sont offerts en commun, c'est la louange de l'assemblée, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il est dit avant, à la fin du verset 3? Si toutefois vous avez goûté que le Seigneur est bon. C'est dans la mesure où nous goûterons la bonté du Seigneur, que nous aurons goûté personnellement, chacun pour nous-mêmes, l'amour de Dieu, l'amour du Seigneur Jésus. Si toutefois vous avez goûté, alors on peut s'approcher comme une pierre vivante, ensemble. Cette maison spirituelle pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est l'objet, qui est le tout de notre vie. Et c'est lui qui peut présenter, on dit qu'il présente à Dieu nos offrandes, qu'il les sanctifie, qu'il les purifie. Sacrifice spirituel agréable à Dieu par Jésus-Christ. Combien la parole de Dieu est insondable, riche. Combien nous sonde chacun. Il y a des choses que Dieu approuve, apprécie. Il y a des choses qui sont agréables plus que des sacrifices. Écouter sa voix, obéir à sa parole, marcher humblement, droitement, justement devant Dieu, aimer la bonté, l'humilité, comme le Seigneur Jésus s'approchait des âmes qui sont dans la détresse, dans le besoin, apporter cet amour divin autour de nous, refléter quelque chose, l'amour merveilleux du Seigneur Jésus. Et puis, savoir offrir, savoir donner, partager ce qui est agréable à Dieu, et puis ces sacrifices spirituels que Dieu approuve, que Dieu apprécie, que Dieu aime, entendre la voix de ses bien-aimés, lui apporter ces sacrifices spirituels. Quel programme est là pour nous, pour chacun de nous, pour que nous puissions, quelque peu dans notre vie, honorer celui qui nous a tant aimés, celui qui a donné sa vie pour nous, celui qui nous invite à le suivre jusqu'à ce qu'il vienne.